1868, c'est les débuts de la liaison maritime régulière entre l'Île-Dieu et Fromentine. 2018, c'est les 150 ans, le livre écrit par l'historien Maurice Essel, En route pour la France, paru en 1994, retrace l'histoire de cette liaison. Une nouvelle édition modernisée et actualisée est disponible. Bonjour Maurice Essel.
Bonjour.
Avant 1868, c'était des traversées plutôt pour la poste et les marchandises, c'est bien ça ?
Eh bien, c'est tout à fait différent parce qu'avant 1868, les traversées se faisaient à l'aide d'une chaloupe à voile. Mmh. Alors forcément, c'était un petit peu réduit comme bâtiment. On allait non pas à Fromentine à l'époque, mais on allait jusque dans les étiers entre Beauvoir et Fromentine. La traversée se faisait à l'aide d'une chaloupe qui était pontée. Et le contrat était établi chez un notaire. Et le patron, eh bien, il était chargé de faire la traversée du courrier seigneurial à l'époque avec le continent. Et en plus, il était autorisé sur ses propres volontés d'amener des passagers en plus de sa charge du courrier. Il percevait donc un contrat pour l'acheminement du courrier et en plus une autorisation de librement de transporter du personnel.
C'était combien de temps de traversée ?
Oh, entre 6 et 11 heures, selon le temps, et puis les conditions aussi, parce que entre l'Île-Dieu et le continent, il y avait souvent des corsaires anglais qui hantaient les parages. Donc, il fallait s'en méfier. Et il arrivait souvent aussi qu'ils prenaient des otages et qu'ils emmenaient les otages en Angleterre. Et alors là, c'était toute une histoire. Ils passaient des mois et des mois en captivité dans la sinistre tour de Londres. Et alors donc, ça augmentait encore les difficultés de la navigation. Mais en plus, il y a eu aussi les circonstances climatiques, le temps. Et l'Île-Dieu a été quelquefois jusqu'à 2 mois sans être ravitaillé et sans avoir de relation avec le continent.
On peut dire pratiquement coupé du monde.
Coupé du monde, pratiquement. Hein, oui, même au temps de la garnison militaire sous l'Empire, eh bien, eux-mêmes, les gens de l'Empire, eh bien, ils étaient obligés de compter sur les difficultés de navigation, sur le temps et sur la longueur des traversées, parce que ça n'a pas toujours été à Fromentine. À partir de l'Empire, les généraux commandant la garnison militaire sur l'Île-Dieu, eh bien, ils avaient beaucoup plus de relations avec Saint-Gilles, qui était l'ancien district révolutionnaire, et le directeur de la poste de Saint-Gilles tenait absolument à conserver l'avantage du trafic avec l'Île-Dieu.
Alors donc, sauf que Saint-Gilles, c'était aussi dangereux qu'aujourd'hui, non ?
Plus dangereux à l'époque, oui. Et on en a fait l'expérience, parce qu'en 1868, le premier bateau à vapeur, qui était la Sophie Célestine, eh bien, après avoir fait une première traversée d'essai prometteuse avec Fromentine, a appris d'un seul coup et est obligé de signer un contrat au terme duquel eh bien, la traversée se ferait maintenant par Saint-Gilles. Alors, ça a été une succession d'avaries, de difficultés, si bien qu'au bout de peu de temps, le commandant de la Sophie Célestine a été contraint de renoncer à son contrat et d'abandonner donc le trafic. Et le trafic a repris après avec des chaloupes à voile, jusqu'à ce qu'un second bateau puisse le remplacer. Et ça s'est produit vers 1870, bien sûr, c'était la Vendée.
La Sophie Célestine, c'était 2 heures de traversée à peu près.
La Sophie Célestine, deux heures et demie.
Deux heures et demie, selon le temps, non ?
Il y avait souvent aussi des problèmes de chaudière. Le bateau constamment était obligé de faire les révisions à cause de l'état de la chaudière.
J'ai lu que ce bateau n'était pas stable.
Non, pas tellement, non. Non.
Et ensuite.
Et puis c'était les premiers essais, donc un navigateur à vapeur entre l'Île-Dieu et le continent. Il fallait qu'ils connaissent les abords, il fallait qu'ils connaissent les conditions de traversée, l'action de la mer et tout ça, c'était à étudier. Et par Fromentine, c'était beaucoup plus facile, parce que le continent donnait beaucoup plus de sécurité en raison de l'approche de la côte qui était plus favorable de ce côté-là. Et puis, le goulet qui, entre Fromentine et Noirmoutier, offrait quand même une sécurité plus grande pour l'état de la mer.
La Sophie Célestine, après, il y a eu quel bateau?
Ben après, ça a été la Vendée. C'était, c'était une nouvelle façon de naviguer. C'était les bateaux à aubes, les roues à aubes qui étaient latérales. Mm-hmm. Et puis, bon, ben, ça marchait à peu près bien, mais enfin, ce n'était pas le pactole non plus. Si bien que c'était tout de même quelque chose qui a rendu plus de service que la Sophie Célestine. C'était un armateur de l'Île-Dieu qu'il avait fait fabriquer. Et la Vendée a donc tenu pendant 7 ans le trajet. C'est elle qui a...
C'est peu tout de même 7 ans
ben, c'est
pour
peu,
un bateau.
Oui, hein. Mais ces vieux bateaux à vapeur, vous savez, ça faisait 20 chevaux, c'était pas grand-chose hein, à l'époque. 20 chevaux vapeur. Et c'est le premier bateau qui a annoncé la guerre de 70 à l'Île-Dieu.
Les traversées sont devenues plus régulières après cette Vendée?
Pas tellement, non.
Non.
Le prochain bateau, c'était, par exemple, entre 1887 et 1900, c'était un bateau navire à vapeur normal avec hélice, le Revers. Alors le Revers, oui, bon, ben, il a inauguré peut-être une série de traversées un peu plus régulières. Les bateaux mettaient 2h30 en général. Et il y a une succession de navires qui, jusqu'à la guerre de 14, qui, le Belle-Île-Lois, la Ville d'Orée, c'était des navires qui ont marqué quand même pas mal de passages. Et il a fallu attendre ensuite un nouveau bateau en 1914, puisque c'est sur 2 années, ça s'est chevauché. C'était la Griffe, c'était un yacht qui avait été transformé en bateau de transport de passagers. Et la Grive, ma grand-mère m'en parlait d'ailleurs, parce que c'est le bateau dont tous les anciens que nous avons connus se souvenaient. La fameuse Grive, elle roulait énormément. C'était une traversée vraiment des plus pénibles à l'époque.
C'était une traversée de 2 heures, une heure et demie.
Ah non, deux bonnes heures.
Deux bonnes heures toujours,
oh,
oui.
Oh oui, souvent plus, quelquefois. Il paraît que j'ai été un des derniers à pouvoir passer dessus. J'étais tout petit à ce moment-là. Uh-huh. Bon, je suis né à Lille-Dieu, bien sûr. Mes parents ils ont fait des déplacements sur le continent. Et je crois que c'était les dernières années, vers 1929, ils m'ont emmené sur la Grive. Mais ensuite, j'ai pris le bateau Le France. Alors, le bateau Le France était déjà beaucoup plus confortable. C'était un bateau à vapeur qui était... Il y avait quand même deux catégories, de première classe et deuxième classe. Et puis, il était quand même plus confortable. Et je me souviens très bien
de ce bateau. Vous pouvez transporter combien de personnes, Le France?
Oh, ben ça, entre 150 et 200 passagers, ça dépend. Mmh. Mais c'était rare. La fréquentation n'était pas la même que de nos jours.
Les touristes sont arrivés à partir de quand sur l'Île-Dieu? Vraiment, on peut dire, assez en masse.
En masse, alors là, il a fallu attendre des années d'après-guerre, bien sûr. C'est à partir des années 1950 qu'on a commencé à avoir le plus possible de touristes. Déjà avant la guerre, avec les congés payés en 1936, on a vu déjà les premiers estivants qui sont arrivés sur l'île. Seulement, il fallait aussi qu'ils abordent à Fromentine. Et à Fromentine, ben, il y avait peu d'auberges à cette époque. Hein. Autrefois, dans du temps des chaloupes à voile, eh bien, les gens arrivaient donc à Fromentine, où ils trouvaient pratiquement personne. Il y avait une petite auberge qui était là, qui abritait les gens.
D'ailleurs, Fromentine, ça s'appelait déjà Fromentine à cette époque?
Oui, parce que Fromentine, ça vient justement du froment. Mm-hmm. C'est la navigation, le trafic du froment qui partait depuis les pays maraîchins et qui s'en allait à l'extérieur par les bateaux, les caboteurs qui venaient à l'époque. Donc, Fromentine vient de Froment. Mais Fromentine, c'est juste un tout petit port d'accostage qui ne permettait pas aux grands bateaux de pouvoir accoster. C'était un trafic de petites marchandises, tout simplement. Et alors, la navigation estivale a commencé, eh bien, c'était à partir de 1896, quand la première ligne de chemin de fer sur route a été créée.
Entre Chaland et Fromentine.
Entre Chaland et Fromentine. Mmh. Ça a désenclavé totalement la Fromentine à ce moment-là.
C'est le début du tourisme, un petit peu, pour les lieux.
Voilà, exactement. Alors, c'était épique. Les premiers temps, avant le chemin de fer, du chemin de fer sur route, il y avait le chemin de fer national qui de Nantes allait jusqu'à Chalon. Et à Chalon, ben, les gens débarquaient et ils trouvaient une voiture à cheval. C'était les frères Morino, enfin, il y a différents patrons qui menaient à cheval jusqu'à Fromentine. Alors là, on montait dans une carriole et puis alors on faisait le trajet péniblement jusqu'à. Jusqu'à Beauvoir. Mmh. Et à Beauvoir, eh bien, on changeait. Ils s'en allaient un peu plus loin, et tous les gens de Lisdieu, pour Lisdieu, débarquaient et montaient dans une espèce de charrette qui avait servi aussi au transport de poissons.
Alors là, c'était horrible. On peut dire insupportable.
Ah oui, insupportable. Ils mettaient plus de 2 heures pour faire le trajet entre Chalon et Fromentine. Hein. C'était épique. Et en arrivant à Fromentine, ben, ils n'avaient pas toujours de la place parce qu'il y avait une seule auberge qui était là. Et puis quand elle était pleine, eh bien, il fallait soit aller dormir si faisait beau temps dans les dunes, ou alors remonter encore à pied jusqu'à Beauvoir pour trouver une auberge. Uh-huh. Alors après, bon, Fromentine, petit à petit, c'est multiplié. La population a augmenté en fonction du trafic pour Lisdieu. Mais
on peut dire que Fromentine vit grâce au trafic des bateaux de l'Île-Dieu et Fromentine.
Fromentine, la création actuelle de Fromentine a été bénéficiaire à cause du trafic pour l'Île-Dieu. Après la guerre en particulier, tout à l'heure, vous parliez de l'arrivée de la masse des touristes. Mmh. C'était après donc la dernière guerre. À ce moment-là, après les années 50, ils ont commencé à venir. Et surtout les années 70, c'est par là que le gros rush s'est fait. Les gens sont venus en masse et ont acheté des terrains partout sur l'Île-Dieu. Et on a commencé à augmenter le trafic. Mais pour vous reparler du petit train, ce petit train a donc duré jusqu'en 1948. Et pendant toute la guerre, eh bien, le petit train aussi a été utilisé par les Allemands. Qui montaient dedans. Et puis en plus, il n'y avait pas seulement les Allemands, mais il y avait aussi les contrôleurs qui contrôlaient le marché noir. Et alors là, il fallait faire attention, parce qu'on allait sur le continent, on allait s'approvisionner, on embarquait les vélos dans le bateau, et puis on faisait quelques tours dans le marais, où on trouvait par-ci, par-là, du fromage, du beurre, de la viande, du porc. On ramenait ça sur l'île. Quand on montait dans le petit train, il fallait faire très attention parce qu'il y avait les contrôleurs du ravitaillement national et qui étaient très scrupuleux et qui sévissaient énormément sur ce qu'ils appelaient les trafiquants à l'époque, alors que nous, ce n'était pas du trafic qu'on faisait, c'était uniquement pour voir survivre.
Mmh. Ouais. Cette ligne ferroviaire a existé jusqu'à quand ?
Mais jusqu'en 1946, par là, à peu près.
46 et en 1950, c'est l'arrivée, on peut dire, des touristes sur l'Île-Dieu. Avec quel bateau ?
Oui, il y a eu d'abord des premiers cars qui ont transporté les gens jusqu'à Fromentine. Et puis après, ben, les bateaux. Alors là,
À partir de 1950, on est arrivé à quel bateau ?
Bien avant, en 1935, on a eu le premier bateau à moteur, l'Insula Oya, qui a donné lieu à l'Insula Oya actuelle.
Insula Oya 2.
Voilà. Et les premiers Insula, c'était un petit bateau qui était merveilleux par rapport à l'époque. Hein. Il était très bien conçu, il était fait à Ostende, et puis il était disons, spacieux pour l'époque, parce que le transport n'était pas le même, la fréquence des passagers n'était pas la même. Mais il y avait deux classes, et puis il y avait dans le fond, en sous-sol, il y avait un petit salon avec des canapés où on pouvait s'étendre. Et puis c'était quand même assez agréable quand on était malade de pouvoir s'allonger, et ce qui n'est pas l'avantage qu'on nous donne maintenant. Mm-hmm. Mais c'est très agréable quand on peut s'allonger et qu'on est malade.
On peut toujours s'allonger dans la Suloria 2.
Ah oui, dans la Suloria, c'est sûr. Oui, on peut.
Il fait toujours des traversées, on rappelle.
Hein, absolument, oui. Hein. Mais alors, ce qui est épique, c'est les conditions de traversée, parce que là, on prenait son billet qu'à bord. On montait à bord, et puis pendant la traversée, quel que soit l'état de la mer, si on était malade ou quoi, eh bien, on avait le contrôleur qui arrivait, et puis, s'il vous plaît, billet. Alors, aussitôt, bon, il contrôlait et tout ça.
C'était même un petit peu le même principe que les trains.
Oui,
hein, c'est exactement ça.
Oui, il contrôlait. Et puis, alors, c'est arrivé un jour, d'ailleurs, le capitaine Guillet, il m'a raconté ça. Il m'a dit un jour, un des contrôleurs arrivait, il faisait un temps épouvantable, la pauvre femme était là, transit, et il demande son billet, alors elle cherche, elle cherche, elle serre, elle se penche, puis hop, elle vomit dans la sacoche du contrôleur.
Ah.
Il y a eu d'autres événements aussi, il y a eu des moments assez épiques. Un jour, ils avaient embarqué une vache, et la vache, au cours de la traversée, il y a eu du remous, la vache était coincée dans la cabine avant du bateau, et pour la chercher ensuite, il a fallu la tirer par la queue. Mais tout ça, je raconte ça dans mon livre.
C'est ce que j'allais vous poser comme question, toutes ces anecdotes sont dans votre livre.
Ah oui, c'est absolument, oui, ça c'est épique d'ailleurs.
Est-ce que vous avez des anecdotes personnelles dans ce livre?
Bon, personnelles, non, c'est-à-dire non. J'ai vécu ce que je raconte, bien sûr. Si, j'ai quand même eu une traversée particulière, c'était en 1945, quand l'Insulawaya, le premier, était parti en réparation. Il y avait un petit caboteur qui était là, il était pénible d'ailleurs, qui avait un moteur de 120 chevaux seulement, et puis qui ne pouvait remplir dans sa cabine intérieure, celle des marins, qu'une vingtaine de passagers. Le reste était sur le pont. Alors un jour, c'était, j'étais encore en habit de première communion, j'étais parti à La Roche-sur-Yon me faire réguler mes papiers. Je revenais, sous une pluie battante d'ailleurs, arrivé à Fromentine, voilà, je voyais la mer était grise, avec pleine de sable comme elle sait l'être ces jours-là.
Alors, complètement déchaîné.
Oui, le bateau arrive, oh, les gens étaient tout verts, tout ça, c'était pas encourageant. Hein. Alors, on va jusqu'au bout de l'estacade et puis on commence à embarquer. Et puis, ils prennent d'abord les femmes, les gens qui étaient en difficulté, les vieillards, tout ça, qui vont dans la cabine, où tous étaient autour d'un seau qui était au milieu de la pièce. Hein. Alors, mais nous étions sur le pont, accrochés comme on le pouvait. Moi, j'étais accroché à la
rambarde.
À la rambarde, là-bas. Et puis, on donne le signal du départ. Il pleuvait à verse toujours, le ciel était encombré de nuages noirs. On traverse, on passe le goulet, on passe les braillards, et puis ça commence à monter, à descendre, un roulis énorme. Les gens commençaient à être malades déjà. Ça durait pendant une demi-heure, puis au bout d'une demi-heure, d'un seul coup, on n'entend plus le moteur. Alors, quelques-uns demandent à un membre d'équipage qui passe, qui dit « Ah, ben, le moteur est tombé en panne. » Alors, quoi faire? Il n'arrive plus à le réparer. On hisse la voile, et puis le bateau marche à la voile. Pareil, les heures passent, les heures s'écoulent. Il y a eu une jeune fille de Lille-Dieu qui était de mon village et qui était à côté de moi. Elle était à moitié évanouie tellement elle avait vomi. Je la tenais comme je pouvais. Et puis, à ce moment-là, le bateau se met à rouler. Les gens couraient d'un bord sur l'autre, roulaient sur le pont. Alors, la nuit tombe, il pleuvait toujours. Et puis, on arrive au bout de 6 heures au large des Corbeaux. Et là,
au bout de 6 heures.
Au large des Corbeaux de 6 heures. On arrive au large des Corbeaux complètement transi, on n'en pouvait plus. Le bateau commence à longer la côte, tout doucement, et on arrive péniblement jusqu'au port où là, les gens étaient là avec des lampes tempêtes à nous accueillir. Seigneur, protégez-les, ils priaient, ils croyaient qu'on était en grande difficulté. Et là, ma grand-mère était là à ce moment-là, ils viennent me recueillir. La première chose que j'ai faite immédiatement, c'était au lit.
Plus de 6 heures de traversée.
Plus de 6 heures de traversée.
Alors, ça vous a vraiment marqué.
Mais ça m'a rappelé justement comment autrefois, avec les chaloupes, on pouvait supporter de telles affres de traversée.
Et maintenant, au bout d'une demi-heure, on commence à en avoir marre.
Ben oui,
c'est vrai qu'on a fait un sacré bond en avant.
Ah, c'est bon, bon en avant. Vous savez, quand on est malade, le temps, il passe pas. Hein. On dit toujours, ça y est, on arrive, et puis les minutes, on regarde sa montre toutes les 2 minutes, hein, et puis ça passe pas. Hein. Mais ça a toujours été pareil. Hein. Mais maintenant, c'est tout de même, le confort est meilleur, et puis la durée de traversée, ça permet quand même, même si on est malade, de ne pas être malade trop longtemps. Hein.
La régie U Continent fut créée en 1949. Qu'est-ce que ça a changé? par rapport à ces traversées, des traversées plus régulières.
Ah oui, c'est-à-dire que là, il y a eu quand même tout un ensemble de responsables qui se sont penchés sur les conditions de traversée, sur les bateaux qu'il fallait construire en fonction des besoins de la population, en fonction des besoins de l'économie aussi. Et puis on a séparé pour un moment les marchandises des passagers. Et puis à l'époque, pour transporter les voitures, c'était pas rien, parce qu'il fallait faire avec des...
Il fallait le monter au filet.
Oui, absolument, oui.
Et puis, c'était dans la Vendée, il me semble, c'est ça?
Oui, ouais. C'est-à-dire c'est dans tous les bateaux qui sont succédés, c'était comme ça. Aussi bien dans le France, dans l'Assieu Loyal, l'Amiral de Joinville, le président Auguste Durand, la Vendée que nous avons connue, nous, c'était comme ça, c'était tout autre œil. On soulevait les vaches, on les voyait dans le filet comme ça, qui gigotaient.
Et toutes ces anecdotes, on peut dire ces aventures, sont racontées dans votre livre.
Ah oui.
Avec qui avez-vous travaillé pour finaliser ce livre? Ça a été longtemps, des moments de recherche?
Ah, beaucoup de recherches. Je faisais un petit peu partout, me renseigner, j'ai interrogé beaucoup de gens aussi, parce que c'est la mémoire orale qui est importante.
Des anciens capitaines, par exemple?
Ah oui, les anciens capitaines, oui.
Des anciens passagers?
Les anciens passagers, oui. Et puis mes souvenirs personnels aussi, ce qui corroborait bien sûr mes écrits. Et puis j'ai lu aussi tout ce qui avait été écrit à l'époque par les voyageurs, les grands voyageurs, depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. À nos jours, c'était plus facile parce qu'on l'avait vécu. Mais ceux qui étaient au 19e siècle, ils me racontaient justement avec beaucoup d'aisance les difficultés de traverser. Et il faut dire aussi que quand on était dans le premier Insulaoya, les souvenirs étaient peu ragoûtants parce que quand on avait été malade, très malade pendant la traversée, on arrivait au port, et puis juste avant d'embarquer, au bord de la Lys, il y avait tous ces fameux bastiottes qui étaient là. Ces bastiottes, ces baquets en bois, sans anse, et qu'on distribuait aux passagers pour pouvoir vomir dedans. Et quand il en manquait, on se passait le bastiotte d'un passager à l'autre. Alors, quand on les trouvait ensuite, avant de débarquer sur le bord de la Lys, on voyait tout ce que les gens avaient mangé.
Il y a certainement eu des personnes aussi qui ont été malades dans les bateaux à cause ou grâce au bar. Parce qu'avant, dans les bateaux, on pouvait boire un coup et fumer également.
Ah oui, c'est ça. Oui.
C'est vrai que...
Ah ben ça, il y avait des difficultés aussi.
C'était dans la Vendée.
Très incommodé.
Et
Vendée,
dans l'insula, oui, c'est ça.
Et oui, dans l'insula aussi, mais dans la Vendée surtout, parce que c'était assez réduit. Puis il y avait en plus les odeurs de mazout.
Qui remontaient, oui.
Oui, oui. Alors... Vous sortiez à ce moment-là par l'arrière, et puis vous voyez,
sacré souvenir.
Vous voyez la poupe de bateau à l'arrière qui montait, qui descendait, le ciel qui tout brumeux, la pluie qui giclait, et puis vous ne pouviez pas vous asseoir facilement parce que tout était gras, tout était enduit d'émanations de gasoil. Alors là, quand on voyait des gens qui étaient quand même assis, puis qui lisaient pendant ce temps-là, on disait...
C'est pas possible. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'anecdotes qu'on pourrait en parler pendant des heures.
Ah ben oui, le mal de mer, c'est pas un mal qui est grave, qui dure, mais pendant qu'on l'a, on est très malheureux, croyez-moi.
Surtout parce qu'au début, il y avait des traversées à 5h du matin et le bateau revenait le soir. Assez contraignant.
Ah oui, il y a eu des jours d'ailleurs où il n'y avait pas toujours des bateaux, parce que
aussi,
après la guerre, c'est ça, on limitait aussi. Ce qui est amusant aussi, c'est que sans des traversées des bateaux à vapeur, ils économisaient aussi les briquettes de charbon. Alors, ils avaient tant de briquettes pour faire la traversée, puis ils essayaient d'économiser de plus en plus. Alors, quand le temps n'était pas trop mauvais, on allait quand même être le moteur... travailler tranquillement, pas trop vite, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop à charger la chaudière. Et puis si bien qu'à l'arrivée au port, il y avait le capitaine qui avait son petit panier avec les briquettes dedans, et puis qui se chauffait facilement et gracieusement pendant tout l'hiver. Ça, ce sont des anecdotes
amusantes, à retrouver dans votre livre.
Tout le monde fermait les yeux, c'était la bonne franquette à l'époque, on n'était pas méchants, vous savez.
C'était
plus souple qu'aujourd'hui, c'est vrai. Mais enfin, les conditions de traversée n'étaient pas les mêmes.
On l'a bien compris.
Les besoins aussi économiques n'étaient pas les mêmes. Le transport de quantité de passagers qui viennent de tous les horizons de la France nécessite quand même une certaine discipline.
Une logistique, oui.
Qu'à l'époque, on n'était pas très, comment dirais-je, pointilleux à ces sujets-là.
On peut aussi découvrir de nombreuses photographies et des cartes postales dans ce livre, En route pour la France, la réédition.
Oui, ben bien sûr, en fonction des, comment dirais-je, du coût de l'édition, on ne peut pas tout mettre. J'aurais voulu faire un volume beaucoup trop gros, mais seulement, vous savez, les éditeurs ont un volume bien serré, et il ne faut pas dépasser le nombre de pages, ça va des, qu'ils appellent des cahiers. Hein, ça, et si on fait une page de plus, alors là, ça fait un cahier de plus. Après.
Il y a tout de même des belles photographies à découvrir.
Ah, il y a très belles photographies, oui. Et si vous voulez, depuis...
Ces photos, vous les avez récupérées comment et où? C'est des gens qui vous ont prêté?
Des photos personnelles, des gens qui m'en ont prêté, la régie elle-même m'en a prêté, et puis les gens de Fromentine aussi m'en ont prêté, oui.
Est-ce que pour écrire ce livre, vous avez été à la rencontre des gens de Fromentine, savoir comment ils vivaient?
Ah ben oui, je suis allé...
Ces traversées.
Je suis allé jusqu'au port de la Gessière, là-bas dans un des étiers qui permettait aux bateaux, aux chaloupes à l'époque, aller jusqu'à Beauvoir.
Hein? Alors, comme on parlait au début, oui.
Ben oui, le bateau donc prenait l'étier, il allait jusqu'à la Gessière, et j'ai vu l'endroit où le bateau s'arrêtait, et puis ensuite, il y avait un petit chemin qui était dans les herbes, qu'on appelait le chemin de la poste, et le patron de la barque prenait toutes les dépêches sur son dos, et puis s'en allait à pied jusqu'à la poste de Beauvoir, remettre le courrier, et au retour, il trouvait des passagers qui étaient là, et ils embarquaient en même temps. Et puis pendant un moment aussi, ben, la poste de Beauvoir et la poste de Fromentine n'avaient pas des contacts réguliers. Alors il arrivait souvent que quand le bateau arrivait, le courrier était déjà parti pour Beauvoir. Alors il fallait attendre le lendemain. Alors, ce qui causait bien sûr des désagréments sur le plan économique.
Et toutes ces anecdotes, et toutes ces aventures sont à retrouver dans le livre En route pour la France par Maurice Essel.
Oui.
Samedi 23 juin de 20h à 21h30 à la gare maritime de la Barre de Mont, à l'occasion de la fête de la musique, le public pourra assister à un concert de l'école de musique intercommunale Vibrato et découvrir l'exposition sur les 150 ans de la traversée. Maurice Essel dédicacera également la nouvelle édition de son livre En route pour la France. Merci Maurice Essel.
À bientôt.
Le livre est disponible à la Maison de la Presse.
Oui,